le numéro 4 du magazine régional Sans Transition, avec un point d'exclamation. La revue des citoyens engagés part à la découverte des fermes urbaines et se demande si elles représentent vraiment une agriculture d'avenir. Nous avons posé la question à François Delotte, qui a réalisé cet article pour Sans Transition. Une agriculture hors sol, en laboratoire, peut-elle être vraiment considérée comme un progrès écologique ?
Et oui, et c'est pour ça justement qu'on a choisi de lui consacrer un dossier à ce sujet, parce que aujourd'hui il est quand même relativement controversé. C'est quelque chose qui permet effectivement d'obtenir, on va dire, des aliments de qualité, des plantes sans intrants chimiques, mais en même temps, c'est du hors-sol, ça consomme encore beaucoup d'énergie, notamment de l'électricité et de l'eau si on l'utilise mal. Et la question est vraiment de savoir aussi si on peut participer au retour de la nature en ville, on va dire, via ces fermes urbaines. Alors, il y a plusieurs façons de l'envisager. C'est pour ça aussi que c'est controversé, que c'est un phénomène qui est plutôt complexe, en fait. Hein, parce qu'on voit, par exemple, qu'à Romainville, la municipalité a choisi de mettre en place une ferme urbaine pour vraiment proposer des aliments de qualité en circuit court, avec des coopérations avec les associations. Et puis, à Lyon, on voit qu'il y a un prototype qui est mis en place, mais là, on a une dimension vraiment commerciale aussi du projet, avec à terme peut-être une volonté d'appliquer ce système pour les industries pharmaceutiques.
Alors justement, François Delotte, dans un pays rural comme la France, avec une proximité des campagnes, est-ce que une ferme urbaine, c'est un gadget ou c'est une solution alimentaire d'avenir ?
Alors moi, je ne pense pas que ce soit une solution alimentaire d'avenir de façon générale, étant donné, comme vous l'avez dit, qu'en France, on a des métropoles qui sont encore relativement proches des lieux de production agricole. Donc on peut alimenter les urbains en aliments en produits sains et de qualité, finalement, avec des productions agricoles qui sont produites dans un rayon de 100 km, on va dire. Et même dans les agglomérations, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être se servir d'un certain nombre de friches dans la mesure où elles ne sont pas polluées pour produire aussi des aliments et inciter aussi des gens peut-être à jardiner dans des jardins partagés, bon, ce qui est déjà fait, mais il faut effectivement le développer. Après, il faut aussi prendre en considération qu'il y a des projets qui sont intéressants dans le cadre de ces fermes urbaines et que peut-être aussi, pour certaines applications, on pourrait dire que ça pourrait être utile. Alors, je parlais de l'industrie pharmaceutique, pourquoi pas, parce que ça permet d'avoir des plantes toute l'année qui sont quand même bon, de qualité, puisque comme on contrôle les intrants, l'air, la lumière, la chaleur, la température, on n'a pas besoin de mettre de pesticides, ça c'est vrai. Après, il est évident que, comme moi je m'en suis rendu compte en parlant avec les spécialistes, on ne peut pas tout produire, évidemment, et loin de là, dans des fermes urbaines fermées, on ne pourra produire que des plantes, surtout à feuilles, des salades, des herbes aromatiques, et des petits légumes, hein, des petits poivrons, des petites tomates, voilà, donc pour l'instant ça reste très limité. Et après, il y a la question effectivement de l'énergie, hein. Ça dépense encore beaucoup d'énergie, hein. Même si on a de l'éclairage LED, même si on va faire des progrès là-dessus.
Alors, ce qui fait la ferme urbaine, c'est qu'elle utilise la méthode hydroponique. Vous pouvez nous dire en deux mots en quoi ça consiste ?
Alors, effectivement, la plupart des fermes urbaines utilisent cette méthode hydroponique, c'est-à-dire que les plantes ne vont pas pousser directement dans la terre, mais leurs racines vont être plongées dans de l'eau qui va circuler en général en circuit fermé, et cette eau, elle est chargée de nutriments. Et les plantes vont se nourrir directement dans cette eau. Alors, parfois, il y a un substrat hein, quand même hein, de base pour mettre les racines. Donc, ça peut être des petites boules de terre cuites, ça peut être de la noix de coco, là, des fibres de noix de coco, enfin, des choses comme ça. Des substances naturelles. La plupart du temps, c'est ce que moi, j'ai pu observer. Enfin, en tout cas, c'est ça, en fait, qui change aussi avec l'agriculture, on va dire, hors sol, parfois conventionnelle. C'est que des fois, on a tendance à y mettre des intrants chimiques et des pesticides. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, la question se pose, est-ce que c'est bio ? Mais alors, le cahier des charges bio stipule que pour qu'une plante soit certifiée bio, bah, il faut qu'elle pousse dans le sol, donc avec la notion de terroir. Et donc là, ce n'est pas du tout possible pour l'instant, en tout cas.
Est-ce qu'on peut parler de protection de l'environnement? Parce que c'est vrai qu'il y a des gains d'espace, il y a une bonne productivité, il y a de la qualité, c'est sans produits chimiques, si c'est ça pas le label bio, et c'est de proximité, donc il n'y a pas d'émission de CO2. Alors, est-ce que c'est bon pour l'environnement?
C'est pas très mauvais pour l'environnement, on va dire, pour l'instant. Le point noir, c'est, je vous disais, moi je pense que c'est quand même la dépense énergétique aujourd'hui. Et puis, ça peut pas être une solution, effectivement, je vous l'ai dit, pour nourrir tout le monde, parce que on peut pas produire n'importe quel légume là-dedans ou n'importe quel fruit. Mais ça peut être, par exemple, adapté aussi, peut-être pour des restaurateurs qui veulent avoir des salades fraîches régulièrement. Là, les produits sont visiblement de qualité, j'en ai parlé avec un agronome, mais voilà, ça peut pas être le cas pour tous les produits. Alors après, d'un point de vue de la biodiversité et de la préservation de la nature, ça serait plus intéressant d'avoir des plantes à l'air libre, puisqu'on a la pollinisation aussi, hein, y a les abeilles qui viennent se nourrir sur les plantes. Voilà, il y a tout un cycle qui se met en place autour de la biodiversité en ville, alors que là, c'est fermé, en fait. Après, il y a d'autres projets que j'ai pu évoquer. Par exemple, il y a un jeune à Marseille qui a gagné le concours aux talents des cités, qui propose d'installer effectivement des plantations sur les toits, notamment sur les logements sociaux et les gens qui pourraient entretenir les habitants, hein, entretenir ces jardins avec des arbres fruitiers, par exemple, adaptés au climat méditerranéen. Mais là, on n'est plus dans une dimension fermée. Autour de ces fermes urbaines, il y a plus largement la question de l'agriculture urbaine qui doit être aussi abordée. Et là, c'est beaucoup plus large, hein, effectivement, et ça recouvre beaucoup plus de réalités. Alors, il y a une initiative qui est assez intéressante à Toulouse, mais maintenant qui se déploie un peu dans toute la France, c'est Citizen Farm qui propose de l'aquaponie. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui sont placés dans un bac, et au-dessus de ce bac, il y a une serre avec des plantes qui poussent dans un substrat, et un système de pompe, en fait, va alimenter en eau ces plantes, qui sont chargées en nutriments liés aux déjections des poissons, et du coup, ça va nourrir les plantes et l'eau va retomber dans le bac des poissons, filtré en fait par la terre. Ça, c'est un système qui est assez amusant et qui fonctionne bien.
Retrouvez l'article sur les fermes urbaines dans le numéro 4 du magazine régional Sans Transition. Ou commandez-le sur le site sans-transition-magazine.info.